une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Vous vous rappelez les adieux de Paul qui quitte les côtes de la Turquie actuelle, l'Asie mineure, quand tous ceux d'Éphèse sont venus jusqu'à Milet. « Je le sais, désormais, vous ne reverrez plus mon visage, dit-il, vous parmi lesquels j'ai passé en proclamant le règne. Je peux donc le jurer aujourd'hui devant vous. J'ai vraiment fait ce que je pouvais, sans rien négliger. Le plan de Dieu, je voulais annoncer intégralement. Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit vous a établi les épiscopes. » Ces paroles font tout à fait effet de testament. Et effectivement, Luc, qui écrit après coup, sait très bien ce qui va se passer. Paul rentre à Jérusalem. À Jérusalem, il va se passer des choses, mais c'est l'affaire précisément de notre épisode d'aujourd'hui. Écoutons Daniel.
De Jérusalem à Rome. À Jérusalem. C'est avec plaisir que nous fûmes accueillis par les frères de Jérusalem. Dès le lendemain, Paul se rendit en notre compagnie chez Jacques, où tous les anciens se trouvaient réunis. Après les salutations, il leur raconta en détail tout ce que, par son service, Dieu avait accompli chez les païens. Ses auditeurs rendirent gloire à Dieu, qui s'était engagé dans la conversion des païens. Puis ils dirent à Paul: tu peux voir combien de milliers de fidèles il y a parmi les Juifs, et tous sont d'ardents artisans de la loi. Or, ils ont entendu des bruits qui coururent à ton sujet. Ton enseignement pousse les Juifs de la diaspora, ceux qui vivent parmi les païens, à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne plus circoncire leurs enfants, de ne plus suivre les prescriptions légales. Le silence était assez lourd. Ainsi, rien n'est jamais gagné. Il était certes facile, même pour un juif de bonne foi, de tirer ses conséquences de l'enseignement de Paul sur le salut par la foi, sans la circoncision et les œuvres de la loi. Mais pour ceux qui connaissent bien Paul, il était évident qu'il songeait plus à libérer de la loi les païens convertis qu'à en détourner les juifs croyants, s'ils admettaient que là n'était pas l'essentiel. Que faire ? Continuèrent alors les anciens à l'adresse de Paul. Ils vont sans aucun doute apprendre que tu es là. Nous te proposons de faire ce qui suit. Il y a ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi. Accomplis les rites de purification légale en même temps qu'eux et charge-toi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire raser la tête comme il est prescrit et tout le monde comprendra que les bruits qui coururent à ton sujet ne signifient rien, mais que tu te conformes toi aussi à l'observance de la loi. Pour les païens qui sont devenus croyants, cela ne change rien. Nous leur avons déjà écrit nos décisions qu'ils y tiennent. Paul préféra ne rien répondre. Il acquiesça de la tête, il avait dit qu'il était prêt à tout supporter. Voilà, cela commençait par ses propres frères. Le jour suivant, Paul prit donc ses hommes avec lui, et pour commencer la purification avec eux, se rendit au temple pour indiquer la date à laquelle la purification achevée, l'offrande, serait présentée pour chacun d'eux. Inexorablement allait se réaliser, comme la chronique d'une mort annoncée, ce que les derniers jours avaient contenu de projets, de pressentiments et de prophéties. Les 7 jours de la purification allaient s'achever quand les Juifs d'Asie, qui l'avaient remarqué dans le temple, soulevèrent la foule et mirent la main sur lui. « Israélite, au secours » criaient-ils. « Le voilà l'homme qui combat notre peuple et la loi en ce lieu, dans l'enseignement qu'il porte partout et à tous. Il a même amené des Grecs dans le temple, profanant ainsi cet endroit saint. » Ils avaient déjà vu, en effet, Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple, sacrilège, passible de mort, comme le signalaient des inscriptions placées aux endroits voulus, car les païens n'étaient admis que dans la première enceinte du temple, le parvis des gentils. La ville entière s'ameuta, et le peuple arriva en masse. On se saisit de Paul que l'on traîna hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. On cherchait à le tuer. La nouvelle parvint au tribun de la cohorte. « Tout Jérusalem est sans dessus dessous !» Il rassembla immédiatement soldats et centurions et fit charger la foule. On cessa de frapper Paul, le tribun le fit arrêter et enchaîner doublement, puis il voulut savoir ce qu'il en était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, chacun criait autre chose que son voisin. Comprenant que ce brouhaha, il n'obtiendrait aucun renseignement valable, il donna l'ordre d'emmener Paul dans la forteresse Antonia, construite par Hérode, qui dominait l'angle nord-ouest du temple. La garnison romaine, une cohorte auxiliaire, qui était casernée. Au moment de pénétrer dans la forteresse, Paul dit au tribun, « Pourrais-je te dire un mot ? Tu sais le grec ? Ce n'est donc pas toi l'Égyptien qui, ces derniers temps, a soulevé et emmené au désert 4000 sicaires ? » Il s'agissait de nationalistes juifs extrémistes qui entretenaient la révolte contre les Romains, une espèce d'armée de libération nationale. « Moi ? » reprit Paul. « Je suis juif de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Je t'en prie, autorise-moi à parler au peuple. » Le tribun donna son accord, et Paul, debout sur les marches, les mains doublement enchaînées, fit signe au peuple. Un grand silence se fit, et il leur adressa la parole en araméen. « Frères, pères, écoutez ma défense, je vous en prie. » Le calme s'accrut encore quand ils entendirent Paul employer l'araméen pour leur parler. « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation stricte de la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, et persécutant à mort cette voie, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. » Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux, en effet, que j'avais reçu des lettres pour nos frères. Lorsque je me suis rendu à Damas avec mission d'arrêter et d'amener à Jérusalem pour les faire punir ceux qui étaient là-bas. Je poursuivais donc ma route, et j'approchais de Damas, quand soudain vers midi une grande lumière vint du ciel et m'enveloppa de son éclat. Je tombais à terre, et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul !» Pourquoi me persécuter ? Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix reprit, « Je suis Jésus le Nazaréen, c'est moi que tu persécutes. » Mes compagnons me confirmèrent ensuite qu'ils avaient bien vu la lumière, mais sans entendre la voix qui me parlait. Je demandai, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va à Damas, et là on t'indiquera toute la tâche qui t'est assignée. » Mais comme l'éclat lumineux m'avait aveuglé, c'est conduit par les mains de mes compagnons que j'arrivais à Damas. Il y avait là un certain Ananias, pieux fidèle de la loi, et jouissant d'une bonne réputation auprès de tous les Juifs de Damas. Il vint me trouver. « Saoul, mon frère, retrouve la vue. » À l'instant même, je vis à nouveau. Il me dit, « Le Dieu de mes pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa voix. Tu dois en effet être son témoin devant tous les hommes, sans exception, pour leur annoncer ce que tu auras vu et entendu. Pourquoi hésiter ? Allons, reçois le baptême et sois purifié de tes péchés en invoquant son nom. »
De retour à Jérusalem, alors que je priais au temple, il m'arriva un jour de tomber en extase, et je vis le Seigneur qui me disait
« Vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accueilleront pas le témoignage que tu me rendras. »
Et je répondis « Mais Seigneur, ils savent bien que c'est moi qui ratissais les synagogues pour faire jeter en prison et battre de verges ceux qui croient en toi. Et lorsque le sang d'Étienne, ton martyr, témoin, a été répandu, moi aussi j'étais là, j'approuvais ces meurtres, je gardais même leurs vêtements. » Mais il me dit,
« Va, c'est au loin, vers les nations païennes que je vais, moi, t'envoyer. »
Alors bien sûr, cette mise en scène par Luc est tout à fait cinématographique. Et en même temps, les événements qui sont rapportés et la façon dont les choses se passent, puisque nous sommes dans une situation de guerre en Irak, est digne de ce qui se passe à Fallujah ou ailleurs. C'est-à-dire que les mouvements dissidents d'un côté, les mouvements plus fondamentalistes de l'autre, les accros de l'ancien judaïsme, lui-même d'un judaïsme plus ouvert vers les païens, tout cela s'affronte avec les Romains qui surveillent tout cela comme les Américains le font à Bagdad. Nous sommes exactement dans une situation analogue de conflit de religion ou de tendance religieuse, et tandis que le Romain, c'est pas son problème, il est là pour faire respecter un certain ordre dans la cité. Mais plus particulièrement, vous l'avez remarqué, Luc, pour la première fois, nous présente la vision du chemin de Damas d'une certaine façon. Et c'est dans la bouche de Paul qu'il met les paroles d'une part que c'est Jésus qu'il persécute, suivant la voix même de celui qui l'entend, et que d'autre part, et par la bouche d'Ananias qu'il reçoit, et par la bouche de Luc lui-même, il est dit que c'est vers les autres, vers les nations païennes que je vais, moi, t'envoyer. Tu n'es pas fait pour les Juifs, tu es fait pour les autres. C'est ici qu'il y a deux dimensions de l'Église qui se fondent et qui ne sait pas qu'elle est en train de se fonder, qui arrivent. C'est-à-dire, il y a une mission ad intra, vers l'intérieur de l'Église, semper reformanda, qu'il faut réparer et réformer en permanence, ce qui n'est pas suffisamment en train de se faire, nous le voyons à l'heure actuelle, alors que la dimension vers l'extérieur, ad extra, semble l'avoir emporté surtout avec notre pape actuel, et c'est plus de 110 ou 15 voyages vers l'extérieur. Nous allons voir la suite, bien sûr.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.